Dans quelques semaines, en fait, 4 semaines, Thierry et moi, nous devons partir pour notre congé aux États-Unis. C'est tous les 5 ans. C'est pour deux raisons. D'abord, pour la raison de la France. Notre type de séjour, nous devons quitter les territoires français ou françaises.
Français.
Français pendant 365 un an, jours. Donc, ça, c'est une raison. Mais l'autre raison, notre mission nous demande de servir dans nos églises aussi aux États-Unis pour animer les conférences missionnaires et de servir le Seigneur là-bas. Et souvent, quand je suis, ou nous sommes dans ces églises et nous animons les conférences missionnaires, et les frères, les sœurs nous demandent, mais comment prier pour la France? Comment prier pour votre église? Et il y a toujours 5 grands sujets qui viennent dans mon esprit. Il y a 5 ans, avant de partir dans notre congé la dernière fois, j'ai prêché un message sur ma prière pour EPEM et en 5 verbes. Et j'ai relu, j'ai regardé de nouveau ce message et dit, bon, mais ça n'a pas changé, c'est toujours ma prière. Et donc, j'ai voulu prêcher encore. Bon, bien sûr, j'ai changé les choses, mais ce message pour ce matin, ma prière pour EPEM en 5 verbes. Donc, Seigneur, sois avec nous. Dirige-nous dans ces moments pour que tu nous parles et que tu nous encourages dans la foi. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. Le premier verbe est aimer. Ma prière pour EPEM est que nous soyons une communauté marquée par l'amour. D'abord et avant tout, nous devons aimer Dieu. Et aimer notre prochain. Et c'est le premier et le plus grand commandement que Jésus nous a donné. La nuit avant sa crucifixion, Jésus donne ses dernières instructions aux disciples. C'est la mise au point de tout ce qui est important pour lui. Imaginez, c'est la dernière parole. C'est comme un cours intensif la nuit avant le bac. Je ne sais pas si vous faites les cours intensifs avant le bac, mais. Comme je le vois. Le premier sujet, comment? Il s'est déjà allumé. Le premier sujet de son discours, si vous lisez, c'est en Jean chapitre 13 à 17. Vous allez voir que c'est l'amour. Il commence son discours en disant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Wow, comment Jésus nous a aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il a donné même sa vie pour nous. Il nous a pardonnés, malgré que c'est nous qui l'a cloué sur la croix. Il nous pardonne. Ça, c'est l'amour de Jésus. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la marque distinctive du christianisme. Alors, qu'est-ce qui va nous définir en tant qu'Église, nous, EPEM? Il y a des églises qui se définissent par leur doctrine. Oui, nous parlons langue. Oui, nous croyons à la doctrine de prédestination. Où nous avons plein de doctrines. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. D'autres se définissent par leur pratique religieuse, porter du voile, baptême d'enfant ou baptême adulte. Plein de pratiques différentes. D'autres par ceux qui sont contre. Nous ne boyons pas l'alcool. Ça, c'est aux États-Unis. Nous boyons, nous buvons, pardon, nous buvons, nous ne buvons pas l'alcool. Nous permettons les femmes de présider et de prêcher, et nous ne permettons pas les femmes de prêcher. Et donc, nous, on se définit par ce que nous sommes contre. D'autres parlent de temple. Ah, nous avons vraiment, que vous avez vu notre église a vraiment un beau temple pour notre église. Ouais, cette église est bien mise, c'est dans une salle de conférence et je ne sais pas quoi. Mais il est certain qui se définissent par le temple. D'autres par le programme d'activité. Nous avons plein de programmes d'activité. Ça, c'est nous, l'église. Qu'est-ce qui va nous définir, nous? Je prie que ça soit l'amour. C'est la première chose. Si nous ratons l'amour, nous ratons tout. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 13, 1 à 3, et vous le connaissez bien déjà, comme vous avez mémorisé, oui. Bon, oui. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, un symbole qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis rien. Ouais, ça, c'est fort, ce qu'il dit. D'avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, on va dire que moi, mais... Il est vraiment un homme spirituel, une femme spirituelle. Mais Jésus dit, ou le pote Paul nous dit ici que si tu n'as pas l'amour, ça ne fait rien. Il continue, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Nous pouvons avoir une saine doctrine, nous pouvons faire toutes les pratiques religieuses qui sont importantes, mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Nous avons une situation intéressante dans notre Église. Nous avons les personnes qui viennent de toutes sortes d'arrière-plans spirituels. Les gens qui viennent des églises apostoliques, des églises catholiques, les églises charismatiques, les églises évangéliques traditionnelles, les darbistes, ou les gens qui viennent d'aucune église dans leur arrière-plan. Et ils disent, mais c'est quoi l'église? Bon, nous avons vraiment un mélange intéressant ici. Nous avons un véritable laboratoire d'amour dans notre église. Et vous savez, dans les laboratoires, on peut avoir les explosions parfois, parce que si on mélange les choses qui ne sont pas trop bien, pour bouf. Mais aussi, on peut créer quelque chose de beau. Et nous avons cette occasion, nous. Nous avons la bénédiction parce que nous découvrons le véritable amour quand nous n'avons rien en commun. Que Jésus. C'est ça notre lien. On peut regarder, avoir quelque chose de beau. Notre premier devoir dans cette église est d'apprendre à aimer. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Pendant quelques semaines, je médite, je donne le deuxième épître de Pierre. J'aime bien comment il commence verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété pour en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Et après, il parle de comment on peut... Nous avons tout à notre disposition. Si nous... Dieu nous donne tout pour aimer. Le but n'est pas de serrer les dents et de prétendre que nous avons l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je sais que Dieu veut que je t'aime, mais alors je ne t'aime pas en fait. Ce n'est pas que nous devons faire semblant que nous avons l'amour. Le but, C'est de devenir la sorte de personne qui aime naturellement. Donc, ce n'est pas que je dois me forcer d'aimer les autres. Je dois regarder Dieu et changer mon cœur de l'intérieur pour que je puisse être une personne qui aime naturellement les autres. Et si nous avons Dieu, nous pouvons le faire. Nous devons coopérer avec lui pour changer notre façon de penser, parce que ça commence là. Et c'est pourquoi l'importance de la parole de Dieu. Ça nous aide d'avoir la pensée de Jésus. Et quand je peux te regarder de la façon que Jésus te regarde, ça va changer mon comportement. Donc ce n'est pas que d'abord, ça doit être changé ici. Ma façon de penser, ma façon de parler. Parfois, je suis choqué quand j'entends la manière que nous parlons entre nous. Ça me choque. Et nous devons demander au Seigneur de nous aider, de changer nos habitudes. Comment nous répondons aux autres, notre habitude d'agir. Par exemple, si nous avons le problème où nous devons dire toujours le dernier mot, où nous avons toujours raison, et tu te vois que ça c'est un problème, nous pouvons pratiquer la discipline de silence. C'est quoi? On est dans une discussion parce que peut-être tu as raison, tu parles d'une doctrine, et l'autre il ne comprend pas, il ne voit pas de ton côté, et tu sais que tu as raison, mais il doit comprendre. Mais tu peux pratiquer la discipline de silence. Tu dis, et tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu dis, je laisse l'affaire entre les mains de Dieu. C'est lui qui va le parler. Et par cela, il y a toutes sortes de petites disciplines spirituelles qu'on peut faire, qu'on peut mettre en pratique pour apprendre comment aimer. Apprendre à aimer demande l'engagement et l'effort de notre part. Okay? Nous avons notre partie, notre responsabilité, mais aussi la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Les deux choses. Et les gens, oui, Dieu va me donner la patience, mais il ne fait rien pour d'avoir la patience. Il y a notre part et la part de Dieu. Malheureusement, souvent, nous n'avons pas le courage qu'il faut pour faire face aux situations qui demandent l'amour. Ce qui arrive est que nous évitons la personne ou parfois nous quittons l'église. Ah bon, c'est comme ça. On va ailleurs. Et c'est dommage, hein? Parce qu'on rate la possibilité de grandir dans l'amour. Que le Seigneur veut nous envoyer. Jésus nous invite à l'amour. Et c'est la marque distinctive de ses disciples. Avec son aide, nous pouvons être une telle communauté. Le deuxième verbe. Qu'est-ce que j'ai pour le deuxième verbe? Oui. Ouais. Croire. Ma prière pour les PEM est que nous soyons une communauté marquée par la foi. Je crois que le christianisme est largement rejeté aujourd'hui par les gens qui nous entourent parce qu'ils ne voient pas en nous une foi vivante et courageuse. Si nous voulons avoir un impact dans le monde autour de nous, et si nous voulons vivre dans la plénitude de la vie qui nous est promise en Jésus-Christ, nous aurons besoin d'une foi vivante et courageuse. Ça, c'est ce qui marque dans nos études de Josué. Cette foi. Faire quoi, Dieu? Nous voulons vaincre Jéricho? Faire quoi? Marcher autour, tout simplement, ne disons pas un mot, sonner un petit peu la trompette, ça va. Mais et avoir foi en Dieu, et c'est effectivement ce que Dieu a demandé pour vaincre cette vie. La Bible nous dit, et deux définitions que je trouve extraordinaires pour moi, au moins de la foi. La Bible nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Espérance, c'est l'anticipation d'un bien qui va arriver. Ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons eu une très bonne étude dans le groupe de maison vendredi soir. C'était Jean 5. Nous avons vu l'importance de marcher selon la foi et pas selon la vue. Deuxième définition, voilà ça, ce que je viens de dire, c'était en Hébreux chapitre 11, verset 1. Le deuxième, c'est vient de Romains chapitre 4, verset 21. Et il dit que la foi est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est la foi. Ce que Dieu a promis, ici, il va l'accomplir. Il dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout dans la vie chrétienne dépend de la foi. La foi est comme un muscle. Il se renforce, avec l'utilisation. Chaque fois que j'écoute la parole de Dieu et que je la mets en pratique par l'obéissance, je grandis dans ma foi. Ma confiance en son amour, sa bonté, sa sagesse et sa puissance se renforcent. Je comprends mieux que Dieu m'aime et qu'il est toujours fidèle. Mais le contraire est aussi vrai. Chaque fois que j'entends la parole de Dieu et je ne réponds pas par l'obéissance, le muscle de ma foi fait subir une atrophie. Quand j'étais un jeune homme, j'aimais bien faire de la varap. Vous connaissez le varap, oui? J'espère que j'ai le bon terme. C'est excitant et c'était excitant et il y avait des vues fabuleuses. Mais quand même, je me souviens de la peur que j'avais la première fois que j'ai fait la descente. Là, au bord de la falaise, j'ai regardé la distance en bas et les rochers qui étaient au fond. Et j'ai regardé la corde et la personne qui la tenait pour assurer la descente. Et je devais décider si la corde était assez forte ou non, et si la personne qui faisait l'assurance était digne de ma confiance ou non. Est-ce que je pourrais avoir confiance, confier ma vie à cette personne, à cette corde pour faire la descente? Je n'ai pas sauté de la falaise sans avoir réfléchi. Je n'ai pas sauté avec une foi aveugle. Je me suis assuré que la corde était bonne et que les nœuds étaient bien liés correctement et que la personne était fiable et qu'il savait assurer. Alors, j'avais confiance, j'ai sauté de la falaise et la descente était merveilleuse. Vivre par la foi est comme la descente en varap. C'est magnifique, mais il faut avoir confiance en celui qui t'assure. C'est Jésus qui tient la corde et Jésus est Dieu. Il est tout-puissant, il est plein de sagesse, plein de bonté, plein d'amour. Nous pouvons avoir toute confiance en lui. Il ne relâchera jamais la corde. Amen. Avoir la foi. Je pense que c'est cet aspect-là que nous devons vraiment grandir. Dieu a les choses qu'il veut. Il veut utiliser cette église. Ce n'est pas que je veux voir une mega church. Ce que je veux voir est Bordeaux touché avec l'évangile de Jésus-Christ. Qui va nous utiliser. Il va nous demander de prendre les risques de la foi. Et ce n'est pas toujours facile. Mais nous devons prendre ces risques de la foi. Mais pas une foi aveuglée, mais une foi qui est bien fondée en Jésus-Christ. Le troisième verbe, c'est... Non, ça c'est le quatrième. Le troisième verbe, c'est écouter. Ma prière pour les PM est que nous soyons une communauté conduite par le Saint-Esprit. Jésus vit au milieu de nous par son esprit. Il est là, il est présent. Il nous appelle à vivre avec lui dans une relation interactive. La Bible nous enseigne que Dieu veut nous parler et nous diriger. Il nous a créés avec la capacité. Vous avez la capacité, nous avons la capacité d'entendre et comprendre sa voix. J'ai lu toute la Bible. Bon, ça m'a, ce n'était pas dans une journée, je vous dis. Ça m'a pris toute une année, peut-être plus. Mais avec ce but, avec, on dit feutre pour souligner. Chaque fois que j'ai vu Dieu, qu'il a parlé avec Dieu, j'ai souligné. Et c'était vraiment intéressant. La manière que Dieu nous parle, que Dieu parle avec l'homme. Cet aspect, cette vérité, ce n'est pas une vérité acceptée par le monde. En fait, dans la pensée de ce monde, c'est ridicule de le croire. Mais quelle joie de savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu distant et silencieux, mais plutôt qu'il est proche et accessible. Il veut nous parler. Partout dans le livre des Actes des apôtres, nous voyons cette vérité. L'Église primitive était conduite par le Saint-Esprit. L'histoire de Paul et son équipe en Actes 16, j'aime bien cette histoire, Actes 16, versets 6 à 11, c'est un très, très bon exemple. Ils ont voulu annoncer l'Évangile à Asie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Saint-Esprit a dit non, pas là. Mais Dieu, prêcher, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Non, pas là. Après, ils ont essayé d'aller dans Bithynie. Mais encore, prêcher l'Évangile, pour prêcher, mais encore le Saint-Esprit a dit non, pas par ici. Mais je ne comprends pas. Tu ne veux pas que nous prêchions l'Évangile? Mais non, pas par ici. Donc finalement, ils sont arrivés à la ville de Troas. Et Dieu leur a parlé par une vision. Il disait d'aller en Macédoine. C'est là. J'aimerais bien. I would have liked to have been there. J'aurais aimé être là avec cette équipe et voir comment Dieu leur a parlé. Cette fois, il dit que c'est pas une vision, mais les autres fois, c'était comment? C'était une voix qu'ils ont entendue, ou est-ce que c'était une autre vision? Ou peut-être c'est juste en parlant entre eux dans le contexte de la communauté qu'ils ont compris que ce n'était pas. Dieu a plein de manières de nous parler. Mais cette fois, à Troas, ils ont eu une vision d'aller en Macédoine. Et grâce à cette vision, l'Évangile est arrivé en Europe pour la première fois. Nous devons être reconnaissants que Paul et son équipe a écouté la voix du Seigneur. Cette histoire nous affirme que la communication entre Dieu et l'homme est possible et qu'elle fait partie de la vie normale de l'Église. Dieu parle avec son peuple et la croissance et l'expansion de son Église dépendent de cette interaction divine. Si nous voulons toucher le Bordeaux, nous devons être une Église qui écoute la voix du Seigneur. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut faire dans nos vies et dans notre Église. Il y aura des nouvelles directions à prendre. Il y aura des nouveaux projets à entreprendre. Mais nous devons être à l'écoute de sa voix. Donc, regardez de nouveau dans notre week-end d'Église. C'était en septembre passé. Nous avons étudié Jean chapitre 10. Et il parle beaucoup d'écouter la voix du Seigneur. Peut-être aussi, quand vous lisez votre Bible, faites attention de comment Dieu communique avec l'homme et voir les façons qu'il nous parle. Écouter Dieu est un art qui s'apprend avec l'expérience et la connaissance de la parole de Dieu. Quatrième verbe. Témoigner. Ma prière pour les PEM est que nous soyons une communauté qui témoigne avec toute authenticité et puissance la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Juste avant l'ascension de Jésus au ciel, il nous a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes, si vous êtes en Christ, nous sommes les témoins de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne qui a vu ou entendu ou vécu quelque chose qui peut certifier et rapporter aux autres. Si nous sommes en Christ, nous sommes les témoins de la nouvelle vie que nous avons trouvée en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, qui était le meilleur ami de Jésus, disait dans sa première lettre, chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 1. L'apôtre Jean dit ceci, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, nous vous l'annonçons. » C'est ça, être témoin. Nous rencontrons Jésus, nous vivons dans une relation avec lui, et maintenant, nous le partageons avec les autres. Il n'y a rien de compliqué dans tout cela. Ce que vous avez vécu, entendu, vous le partagez avec les autres. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à la faculté de théologie pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être à un certain âge ou un certain niveau spirituel. En fait, ce que je trouve, les nouveaux convertis sont des meilleurs témoins de Jésus que les autres, parce que leur vie est touchée par Jésus. La plupart d'entre nous sont en Christ aujourd'hui à cause du témoignage de quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a les exceptions, mais c'est vrai pour la plupart de nous. Pour moi, je peux dire mon père. Ou une sœur Caroline. Pour vous, donne un prénom de quelqu'un qui, en haute voix, quelqu'un que Dieu a utilisé.
Juste.
Ketia. OK.
Magali.
Comment?
Magali. Sébastien.
April.
Patrice.
Florence.
Philippe.
Ben.
Ben.
Okay. C'est vrai. Alors, qui sont les personnes autour de nous qui attendent? Nous sommes les témoins de Jésus. Oui, c'est bon. En fait, je veux voir dans notre église encore. Nous pouvons faire beaucoup plus que nous faisons pour l'évangélisation. Mais au moins, il faut commencer là. Juste être le témoin de Jésus. Je vous encourage de ne pas oublier le carnet d'évangélisation. J'ai prêché sur ça et bon, mais ça fait des mois maintenant, presque un an. Mais carnet d'évangélisation, la première chose, et c'est vivre. Si nous ne vivons pas l'évangile, nous n'avons rien à partager. Tout commence là. Je dois connaître Jésus comme mon sauveur. Et je dois vivre dans son amour. Si ça c'est vrai de moi, je suis déjà automatiquement un témoin pour Jésus, si je vis vraiment. Mais la deuxième chose, c'est connecter. Nous avons parlé d'un pont. Bâtir un pont de confiance qui peut soutenir le poids de l'évangile. Le poids de vérité de l'évangile. Nous devons connecter au je ne sais pas le verbe qui est le meilleur, rapprocher ou tisser des amitiés avec les autres. Développer les amitiés pour que... Et après, quand le moment est bon, nous les invitons. Peut-être dire que, est-ce que vous voulez lire la Bible avec moi? Avoir un café, je veux partager 4 points de Nouveau Testament qui a transformé ma vie. Ou peut-être il y aura des groupes de découverte. Que plusieurs de vous ont assisté dans l'église pour comprendre. Peut-être un événement comme Pâques ou d'autres choses. Inviter et finalement engager. ils ont l'occasion de donner leur vie à Jésus, ils deviennent engagés dans l'Église et ça continue. Ça, c'est notre philosophie d'évangélisation, le carré d'évangélisation. Bon, le cinquième verbe, le dernier verbe. Je vais lire quand même ce que j'ai écrit. Quand je reviens, Terry et moi, nous revenons l'année prochaine. Je veux voir les nouvelles personnes dans cette église, dans le royaume de Dieu, grâce au témoignage de cette église. Amen?
Amen.
Ça, c'est notre prière, hein? Donc, je veux voir, waouh! Ça, c'est cette personne à qui? Parce que nous avons partagé l'évangile.
Mais vous vous engagez à revenir alors.
Oui, oui, oui.
Non,
nous avons déjà dit la date, c'est le 1er juin. Donc, ok. Le cinquième verbe, c'est suivre. J'espère que ça ne vous étonne pas. Parce que nous disons cette phrase toujours. Ma prière est que nous soyons une communauté de disciples qui suit Jésus de quoi? De tout cœur. Que nous soyons une communauté de disciples qui suit Jésus de tout cœur. Qu'est-ce qu'un disciple? Le mot disciple veut dire tout simplement celui qui apprend ou un apprenti. Un disciple est un croyant qui s'attache à Jésus pour apprendre de lui et marcher à sa suite. Ça, c'est un disciple. Prenons l'exemple de la vie courante. Si je veux devenir, par exemple, plombier, je cherche d'abord un bon plombier qui connaît bien son métier et qui maîtrise toutes les finesses. Il est quelqu'un de confiance. Je fais un choix de m'attacher à lui pour apprendre. Je l'observe, je l'écoute, j'apprends, j'essaie, je fais des erreurs, mon maître me corrige. Je mets en pratique ce qu'il m'a dit et au fur et à mesure, je maîtrise le métier. C'est pareil avec Jésus. Être disciple est un processus intentionnel. Personne n'est un disciple de Jésus sans savoir, tout comme une personne n'est un apprenti d'un plombier sans le savoir. Ce n'est pas que si je suis un apprenti d'un plombier qu'un jour je me lève et dis, dis donc, je ne savais pas. Je suis apprenti d'un plombier. Non, c'est intentionnel, on fait le choix. C'est un engagement. C'est un choix de s'attacher à lui pour apprendre. Mais apprendre quoi? Un disciple qui suit Jésus, un disciple qui veut apprendre à obéir. C'est un disciple qui veut glorifier Dieu et apprendre de Jésus. Comment glorifier Dieu, comment tous les autres verbes, comment aimer, comment vivre dans la foi, comment écouter, comment témoigner. Je m'attache à lui pour apprendre de lui comment vivre dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Être un disciple est aussi un processus de grâce. Être disciple veut dire par définition qu'on n'est pas parfait. On s'attache à Jésus pour apprendre. C'est la raison pour l'apprentissage. Le disciple est toujours en chemin. Donc, si je suis un disciple pour apprendre, ça veut dire, effectivement, il y a quelque chose à apprendre. Je n'ai pas encore arrivé. Donc, on peut être vraiment un nouveau converti et très peu de connaissances de Dieu et en même temps un disciple engagé. Sérieux. C'est un processus de grâce qui va durer toute la vie. Dans notre bureau de Thierry et moi, nous avons un tableau qui a été peint par Annie. Annie n'est pas là? Ah, d'accord. L'encourage Annie avec cette illustration. Un tableau qui a été peint par Annie, on dit comme ça? D'accord. Et c'est un tableau d'un chenille qui devient un papillon. Et souvent, quand je suis là dans mon fauteuil pour lire la parole, je regarde et je pense, ah, nous sommes, c'est un beau processus à devenir ce que Dieu a conçu pour nous. Et quand je prie, je pense à nous tous. C'est un processus de grâce. Bon, en résumé, ma prière pour EPEM, en 5 verbes et la suite. Aimer, je prie que nous soyons une communauté marquée par l'amour d'abord, avant tout. Croire, je prie que nous soyons une communauté marquée par la foi, une foi qui est prête de prendre les risques, de prendre de Dieu pour toutes choses. Une église qui, écoutez, je prie que nous soyons une communauté conduite par le Saint-Esprit. Témoigner, je prie que nous soyons une communauté qui témoigne avec toute authenticité et puissance la bonne nouvelle de Jésus. Et suivre, je prie que nous soyons une communauté de disciples qui suit Jésus de tout cœur. Donc, juste dis à la personne à côté de toi, de quel verbe te marque plus? Et priez juste une courte prière, l'un pour l'autre, d'accord? Donc, rapidement, dites à la personne à côté de toi, quel est le verbe qui te parle le plus ce matin? Et avoir une petite prière entre vous. Bon, mais... Seigneur, Seigneur, tu vois les prières dans chacun, dans le cœur de chacun et nos besoins. Seigneur, je prie que tu nous aides à devenir une église, une communauté qui est marquée par l'amour, par la foi, par un puissant témoignage. Seigneur, la manière d'écouter ta voix et de suivre de tout cœur. Que ça soit vrai de nous tous. Sois avec chacun, Seigneur. Nous prions ton nom. Amen. Amen. Anis, d'accord. Alice. Alice, d'accord. Ok. Oh, d'accord. Je le connais bien. Ah oui. 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 Oui
On vous propose un dernier chant pendant qu'on fait passer l'offrande, parce que j'ai encore oublié. C'est systématique. Donc, ce qu'on vous propose de chanter, c'est un... On fait un peu de pub, on le dira peut-être à la fin, mais un chant qu'on vous proposera aussi de chanter pour le week-end de Pâques, le dimanche en particulier, où on a prévu dans l'après-midi, donc vers 16h30, un moment de partage musical. Une célébration de Pâques et un moment de partage musical. Donc c'est un chant qui reprend des paroles du prophète Jérémie, il me semble, hein. Et je crois que ça correspond bien, à l'EPEM et puis à nos vies personnelles, où le Seigneur dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est ce que je vous propose de chanter en sol. Que j'ai formé sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, projet de paix.
Peur, mon cœur entend toujours. chanter la voix de ton amour. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. De malheur, projet de paix, et non de malheur,
les annonces.
Oui, peut-être je peux dire un mot.